Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaborio. Adaptation, Henri Weitzman.
Aujourd'hui, 8e épisode, un ami dévoué, Clément Sauvresy.
Résumé du 7e épisode.
Pour Lecoq et Plantin, l'assassin de la comtesse de Trémorel, c'est son mari Hector, qui a disposé les choses de telle sorte que le soupçon puisse planer sur un innocent.
Selon le policier, le comte devait trouver à tout prix quelque chose de compromettant pour lui et que sa femme avait caché.
Après l'avoir tué et traîné au bord du fleuve, il s'est acharné à fouiller.
Éventrant les fauteuils, frappant les armoires à coups de hache, quand ?
Par la fenêtre, il a vu la ripaille près du corps de la comtesse.
Il s'est enfui.
Et c'est lui que le braconnier a dû apercevoir.
Mais Lecoq interrompt son exposé.
Car il a entendu un bruit suspect et tombe sur Roblot.
Qui, croyant le juge de paix seul,
venait pour le tuer.
Le rebouteux, maîtrisé, est enfermé dans un cabinet noir.
Seul, le juge de paix Plantin peut expliquer le mobile de Roblot en remontant dans le passé.
...1861, à Paris, dans l'appartement de Jenny Fancy, courtisane entretenue par le comte de Trémorel.
Entrez ! Oh, Hector, toi, à 11h du matin, quelle surprise.
Agréable, j'espère.
Oh, mon chéri. Excuse-moi, j'achevais ma toilette.
Fais donc, mais dépêche-toi, je reste à déjeuner.
Chic.
Et dis à la cuisinière de faire vite, je suis pressé.
Je le fais immédiatement.
Je vais gagner du temps en mettant les couverts. Parce qu'on déjeune ici, dans ma chambre, hein. Sans tralala.
Bien sûr.
Tu ne sais pas ce qu'on m'a raconté?
Non, mais tu vas me le dire.
Camille Lesdris.
Oui.
Tu sais, la grande rouquine qui avait fait scandale à l'opéra, il y a 2 mois, en giflant Dorothée, dans la loge même du duc de Parlange.
Oui, c'est bien.
Elle a quitté le petit du soir, le fils du banquier, pour suivre un des 3 membres de la délégation indienne qui était venu avec le prince de Galles et le vice-roi.
Ah.
Rappelle-toi, le gros qui était à table à Bade quand tu as fait sauter la banque. Celui qui portait un bouchon de carafe en guise d'épingle de cravate.
Eh bien, tant mieux pour du soir. Son financier de père n'aurait jamais fait de lui un quart d'agent de change s'il s'était obstiné à s'afficher avec cette sauterelle. Quant au Rajan, on laisse-moi rire. Il ne lui permettrait même pas de l'accompagner jusqu'à Londres.
Oh, la pauvre.
On ne le plaint pas. Il lui fera cadeau de son bouchon de carafe.
Voilà, c'est prêt, monsieur.
Merci.
Vous pouvez passer à table. Mais je vous préviens, c'est un peu plus simple.
Mais c'est bien, Céline, merci.
Vous m'avez guère laissé le temps.
Bah, ce sera très bien quand même, Céline.
Où prendrez-vous le café?
Dans le petit salon, peut-être. Bah, je ne sais pas. Je vous sonnerai.
Bien.
Si tu as d'autres histoires à me raconter, profites-en. Je suis tout oreille. Parce qu'à la fin, c'est moi qui t'en conterai une bien bonne.
Oh, dis tout de suite.
Non, tout à l'heure. Excellent ce pâté. Mmh. Je te verse du Bordeaux.
Un fond de verre seulement. Mmh. Merci. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à t'apprendre.
Parle-moi chiffon.
Qu'est-ce qui te prend? D'habitude, tu ne veux même pas m'entendre quand je...
Oh non, t'es jamais laissé manquer de quelque chose dans ce domaine.
Non, au contraire. Tu es généreux comme personne. Mais tu me donnes de l'argent en me disant, faisant ce que tu en veux, mais ne m'en parle pas. Et voilà que soudainement, tu t'intéresses à ma modiste et à ma lingère.
Vois-tu, ma petite, c'est que désormais, tu n'auras plus l'occasion de me mettre au courant de ces petits détails de ton existence.
Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire?
Oh, il est parfait, ce Ségur Médoc. J'en avais fait venir une vingtaine de bouteilles il y a 2 ans. Il doit bien en rester encore quelques-unes à la cave. Même si tu ne penses plus à moi dans quelque temps, et au moins le bon goût de n'en boire qu'avec des connaisseurs.
Oh, je t'en prie, cesse de me dire de pareilles bêtises.
Ce ne sont pas des bêtises.
Alors dis-moi ce que tu as sur le cœur.
Belle expression. Mange.
Non, je n'ai pas faim.
Moi, si.
Ne sois pas méchant, Hector.
Je ne suis pas méchant, je ne veux pas l'être. Cependant, je ne vais pas te faire plaisir. Prépare-toi à une nouvelle surprenante. Je suis ruiné.
Ce n'est pas vrai.
Je dis ruiné, tout ce qu'il y a de plus ruiné, à plate couture.
Tu te moques de moi. Tu plaisantes.
Jamais je ne t'ai parlé aussi sérieusement, ma fille. Cela te semble invraisemblable, n'est-ce pas? C'est pourtant la vérité. J'ai dévoré toute ma fortune, des millions. Je ne le regrette pas, j'ai eu de la vie pour mon argent. Alors qu'il est, tout est saisi chez moi, je suis sans domicile, je n'ai plus de sous.
Mais alors?
Alors quoi? Tu te trouves libre. Cela va sans dire. Je te rends ta liberté. Oh, mais sois rassuré, je ne te quitte pas ainsi, je ne veux pas que demain tu sois dans l'embarras. Le loyer est à ton nom, le mobilier te reste, et de plus, j'ai dans ma poche... 500 louis. C'est toute ma fortune. Je te la donne. Tiens.
Mais je n'en veux pas. D'ailleurs, tu n'es pas si pauvre que tu dis. Puisque tu as encore cette somme.
Ma chère, c'est à peine ce que tu me coûtes par mois.
Mais je peux dépenser moins. Oh oui, beaucoup moins, être tout aussi heureuse. Autrefois, avant de te connaître, 10 000 francs me semblaient... une de ces sommes fabuleuses dont on parle, mais que peu d'hommes ont vu réunies en un seul tas, que bien peu ont tenu entre les mains. Non, reprends cet argent.
Que veux-tu que j'en fasse?
Je ne sais pas, moi. Tu peux jouer à la bourse, parier aux courses, gagner au casino, tenter quelque chose, enfin. J'ai entendu parler de gens qui ont commencé avec rien. Et qui n'avaient pas ton éducation à toi, et qui à présent sont riches comme des rois. Et fais comme eux, essaie, dis. Tu veux bien?
Décidément, tu es une bonne fille. Alors, prends ces 500 louis, puisque je te les donne, et ne t'inquiète de rien.
Mais toi, toi, que te reste-t-il?
Ma foi...
Que vas-tu faire?
Il doit me rester quelques 350 francs, et c'est bien plus qu'il ne me faut. Aussi, avant de partir, vais-je distribuer quelques louis à tes domestiques.
Et que deviendrons-nous après, mon Dieu?
Je vais me brûler la cervelle.
Ah!
Tu vois ce joujou? Eh bien, en te quittant, je vais aller quelque part, n'importe où, sur les quais. J'appuierai le canon, comme cela, sur mes tempes. Je presserai sur la détente. Et tout sera dit.
Non! Non, non! Cela ne sera pas, tu ne te tueras pas. Oh, dis, dis. Tu ne te tueras pas, tu me le promets. Tu me le jures. C'est que je t'aime, moi. Vois-tu, je t'aime. Moi qui ne savais pas que je pouvais t'aimer. Je ne te connaissais pas. Tu étais riche, insouciant, tu voulais toujours paraître. Et maintenant que tu peux être malheureux, je te vois autrement. Va, nous pouvons connaître le vrai bonheur. Tes 10 000 francs. Plus tout ce que nous pouvons vendre ici. De meubles, de tableaux, d'objets. Sans compter les chevaux, la voiture. Mais tout cela fait beaucoup, beaucoup. Oh, oh, oh. Nous irons nous cacher à l'autre bout de Paris, dans un petit logement entouré de jardins. Tiens, du côté de Belleville. par exemple, et comme nous y serions heureux. Tu ne me quitterais plus jamais, car je serais jalouse, vois-tu. Mais jalouse. Nous n'aurions pas de domestique, et tu verrais comme je sais bien tenir un petit ménage.
C'est de sentiments comme cela. Tout ce que tu me racontes, ma chère, est fort joli, mais complètement absurde. Un homme de mon rang ne déchoit pas, il meurt. Allons, adieu.
Tu ne sortiras pas. Je ne veux pas, tu es à moi, puisque je t'aime. Si tu fais un pas, j'appelle.
Il faut pourtant en finir.
Tu ne passeras pas.
Fort bien. Ce sera de ici que je me ferai sauter la cervelle. Si tu appelles, si tu ne me laisses pas le passage libre, je tire. Ah ! Enfin, ce n'est qu'un petit malaise. Elle se remettra.
À Paris, du côté du pont de Sèvres, sur une berge de la Seine.
S'ouvre-y.
Toi? Moi-même, mon vieil Hector. Eh bien, tu peux dire que tu m'as fait galoper. Voilà 2 minutes que je suis tes mouvements. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire là au bord de la Seine?
Rien, rien.
Insensé. Te noyer. Et ce pistolet-là? C'est donc vrai ce qu'on raconte? Que tu as quitté ta maîtresse hier en lui déclarant que tu allais te tuer?
Oh, elle a déjà répandu la nouvelle.
Mais ce matin même! Un journal annonçait ta mort avec force détail.
Mais dans ces conditions, tu vois bien qu'il faut que je me tue.
Pourquoi? Pour éviter à ce journal le désagrément d'une rectification.
On dira que j'ai reculé.
Très joli. Alors quoi? On est forcé de faire une folie pour cette raison qu'on a dit qu'on la ferait. C'est absurde. Et pourquoi veux-tu te tuer?
Parce que je suis ruiné.
C'est pour ça? Tu es fou. Ruiné. C'est un petit malheur. Mais quand on a notre âge, on se remet en selle. Sans compter que tu n'es pas si ruiné que tu le dis, puisque j'ai, moi, 100 000 livres de rente.
100 000?
Oh, bas mot.
Eh bien, moi qui ai eu plus que cela, je n'ai pas mangé depuis hier.
Et tu ne me dis rien. Viens, viens vite. D'abord, nous allons nous installer dans un petit caboulot que je connais non loin d'ici. J'ai arrêté à 2 pas quand je t'ai aperçu. Je suis comme un cocher de fiacre. Je ne viens jamais à Paris sans le picotin de mon cheval. Il m'attendra la bouche pleine. Nous aussi, nous allons avaler un morceau.
Je crois rêver. J'étais au bord du gouffre. Et tout à coup, toi Clément, mon camarade d'enfance et de collège, tu surgis, tu me sauves. Oh, tu es mon ami, mon seul ami, mon frère.
Tout en déjeunant, nous allons arrêter nos plans. Tu veux disparaître pendant quelques jours, je comprends cela. Mais aujourd'hui même, tu vas adresser 4 lignes aux journaux. Demain, je vais prendre tes affaires en main. Je m'y connais sans savoir où tu en es. Je me charge de sauver encore une jolie aisance. Nous avons de l'argent. Tes créanciers seront coulants.
Mais que deviendrai-je?
Comment? Mais je t'emmène chez nous, parbleu. Au Val-Feuillu. Tu verras.
C'est merveilleux.
Évidemment. Tu ne sais pas que je suis marié depuis le temps que nous nous sommes vus. Oui, j'ai épousé la plus belle et la meilleure des femmes. Je te raconterai cela. Oh, mon ami, il n'est pas d'homme plus heureux que moi. Tu seras un frère pour nous. Marchons plus vite, j'ai une faim de loup. Et toi alors, qu'est-ce que ça doit être?
Oh oui. Ah, j'étais au bord du gouffre. Mon ami. Mon seul ami.
Allez, viens, viens. Thank you.
au Val Feuillu.
Peut-être se cache-t-elle par ici. Oh, c'est magnifique. Berthe ! Berthe !
Mon ami ?
Je t'amène un revenant. Un revenant que tu connais, dont je t'ai parlé souvent, que tu aimeras, puisque je l'aime, et qu'il est mon plus vieux camarade et mon meilleur ami. Madame Sauvresy, permettez-moi de vous présenter le comte Hector de Trémorel.
Monsieur, croyez, du moment où mon mari, soyez le bienvenu.
Madame.
Donne donc la main, Hector.
Mes hommages.
Vois-tu, Berthe, notre ami Hector est épuisé. On lui a ordonné du repos et ce repos, il vient le chercher près de nous.
Mais mon ami, ne crains-tu pas que monsieur le comte ne s'ennuie un peu ici?
Lui? Pourquoi?
Le Val Feuillu est calme, tranquille, certes. Mais un peu sauvage. Et après tout, nous ne sommes que des campagnards.
Oh, madame.
Bien, bien, nous verrons. En attendant, notre ami tombe de fatigue.
Je m'en veux d'en donner l'impression, mais il est vrai que je me sens affreusement là.
Je vais vous faire accompagner dans votre appartement.
Un appartement?
Oui, nous avons deux appartements et trois chambres d'amis aux étages. Votre appartement est au premier.
Oh, je suis confus.
Mon mari a raison. Val Feuillu peut vous être bénéfique. Françoise, accompagnez monsieur le comte au premier étage.
Oui, madame. Les bagages?
Ils suivront, ne vous inquiétez pas.
Bien, madame.
Merci, madame.
Mon bon Clément, je n'ai jamais perdu au jeu autant que je te dois. C'est pour cela que tu n'échapperas pas d'ici. Je te tiens.
Monsieur.
Tu me comprends, Berthe?
Mais bien sûr.
Trémorel est resté un grand enfant. Trop gâté. Un peu fou. Une vie trépidante.
Trépidante? Qu'est-ce que cela veut dire?
Comment t'expliquer, ma chérie? Il était ce qu'on appelle un viveur. Tel qu'on peut l'être à notre époque. Un de ces personnages qui semble avoir été mis sur terre uniquement pour jouir de tout et de tous. Ses excès lui avaient d'ailleurs valu une certaine célébrité. Tout Paris connaissait, et cite encore, ses écuries, ses équipages, ses gens, son mobilier, ses chiens et, ne t'en offusque pas, je t'en prie, ses maîtresses.
Mais qu'est-ce qu'un lion pareil vient faire dans notre cage? Aussi large et verdoyante soit-elle. Non, je le répète, il va mourir d'ennui ici.
Imagine un homme qui vient de faire une chute assez grave.
Oui.
Un membre fracturé. Il lui faudra un certain temps pour se remettre. Il devra se montrer patient et sage. La guérison est à ce prix. Eh bien, Hector est tombé au fond d'un ravin, d'où j'ai le bonheur de le tirer. Il a le cerveau malade, nous le soignerons, nous le guérirons. Le Val Feuillu sera sa convalescence.
Tu dois le connaître bien pour agir ainsi.
Nous avons grandi ensemble au collège.
Il devait être un sujet brillant.
Très brillant, mais... plus doué que travailleur. Trop imbu de sa personne pour se lier. Il ne manquait cependant pas de cœur. Il offrait volontiers sa bourse aux plus démunis d'entre nous. En fait, plus prodigue que généreux. Ses parents l'ayant habitué à dépenser sans compter. Mais il avait trop d'amis flagorneurs qu'attirait sa fortune. Sa vanité lui coûtait fort cher. Vois-tu, j'étais peut-être... même certainement le seul à pouvoir lui dire ces quatre vérités. J'étais aussi le seul à qui il confessait parfois le dégoût qu'il avait de lui-même.
Ce gentilhomme si fier n'est sans doute qu'un homme faible.
Juste, un homme qui a bien des caprices, jamais une volonté.
C'est étrange que vous ayez été amis. Vous ne vous ressembliez vraiment pas?
Oh non! Je n'avais ni titre à faire valoir, ni grand nom à mettre en avant.
Cela explique encore moins que vous soyez si liés.
Des souvenirs, des bons souvenirs. En fait, nous sommes perdus de vue après ma fâcheuse expérience. Oui, j'avais essayé de tâter de son genre de vie.
Ah ah.
Au bout de 6 mois, j'ai dû renoncer. Cela m'a coûté 100 000 francs. Mais je ne regrette pas d'avoir à ce prix étudié ce qu'on appelle... Je me demande pourquoi la vie de plaisir.
Ah, certes, tu n'étais pas homme à te conduire comme le comte de Trémorel. Que veux-tu? Tu as peut-être raison de dire qu'il est encore un grand enfant. Mais il est aussi un grand seigneur. Je suis certaine qu'il a des vertus qui compensent ses tares.
Et tu verras qu'en notre compagnie, ses vertus s'épanouiront. D'autant plus que je ne veux pas qu'il laisse aller à volo les biens dont disposent à présent ses créanciers. Dès demain, je m'occuperai de ses affaires.
Tu es le meilleur des amis, Clément.
Je suis heureux que tu me comprennes, Berthe. Je vais monter chez lui et lui faire porter tout ce dont il a besoin, en attendant de récupérer ses propres affaires.
Va, mon ami. De mon côté, je vais donner des instructions à Francette. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, ma chérie.
Morel trouvera-t-il le salut? Retrouvez-nous au Valfeuillu.
C'était, d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptée par Henri Weitzman,
le 8e épisode du crime d'Orcival.
Avec Marie-Hélène Breya, Yves Fabrice, François Martouret, Hélène Sielka, Emmanuel Weiss.
Bruitage, Dominique Aubert. Chef opérateur du son, Guy Senot. Collaboration technique, Claude Niort. Assistant de production, Didier Lagarde. Réalisation, Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 21 août 1984. Comme les 7 premiers épisodes de ce feuilleton, vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, Miss Jenny Fancy.